Bienvenue
dans cette église où il fait bon se retrouver pour se reposer. Notre esprit a besoin de se reposer. On fait beaucoup de choses pour que le corps s'apaise et puis l'esprit tourne très vite. On a besoin de dire « Seigneur, je dépose mes fardeaux devant toi, entre tes mains ». On va le faire maintenant. On va regarder l'histoire d'hommes vraiment qui vont très mal, qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont rien, pas d'amis, pas de famille, rien devant eux, rien derrière eux. Eh bien, devant cet exemple-là, on va dire peut-être nous aussi, on est dans ce cas, un peu, mais il y a quelqu'un qui va s'occuper de nous. Si vous voulez, on va se lever chacun à sa place et on va prier le Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous sommes venus pour reposer notre âme dans tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains, as-tu dit sur la croix. Nous voulons te remettre notre corps, notre âme, notre famille, nos enfants, notre couple. Nous voulons te remettre tout ce qui en nous est blessé, connaît une panne, un chagrin. Nous voulons te dire, Seigneur, tu es le Créateur, mais tu es aussi le Recréateur, que nous appelons Sauveur. Nous voulons te faire confiance, ne pas être distrait. Nous ne voulons pas penser aux choses futiles. Dans cette heure où tu es là, dans cette heure où tu parles, une seule chose va compter, écouter la voix d'en haut, où Dieu parle, et ce n'est jamais pour rien dire. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir, chers amis, et à ouvrir avec moi la Bible, si vous l'avez prise ou vous écoutez. La Bible s'écoute. C'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17. Les petits récits de l'Évangile sont brefs, simples. Ils s'adaptent à toutes les civilisations, à toutes les époques, à tous les âges, à tous les temps. Ça, c'est la beauté de l'Évangile. Et je lis avec vous Luc, chapitre 17, verset 11. Vous avez trouvé. Vous suivez peut-être pour vérifier que je dis bien la vérité. Autrefois, quand l'apôtre Paul parlait, on vérifiait s'il disait vrai ou faux. Voilà, les chrétiens de Bérée étaient très, très sérieux. Écoutez, je vais lire, vous suivez. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce, ça veut dire il le remercie. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. » Jésus va vers Jérusalem, c'était son habitude. Il a beaucoup voyagé dans un mouchoir de poche sur une région à peine plus grande que l'Ille-et-Vilaine. Il a passé 3 ans à bouger, voyager, circuler. Et puis, il doit toujours passer par des endroits difficiles comme la Galilée, pays un peu de païens, la Samarie, pays un peu de païens. Mais Jésus-Christ est venu pour chacun. Il doit passer chez eux, il doit passer chez moi, il doit passer chez vous. Aujourd'hui, il a quelque chose à vous dire. Quand Jésus passe, c'est l'heure de s'arrêter. C'est l'heure d'écouter, c'est l'heure de réfléchir, c'est l'heure d'ouvrir son cœur. C'est l'heure de ne pas dire « à plus tard ». Je connais des gens qui m'ont dit toute leur vie « à plus tard, demain, je verrai bien ». Et un jour, c'est trop tard. Jésus passe, il va vers Jérusalem et il passe dans une région, dans un village. Et là, le spectacle terrifiant de l'époque, 10 lépreux qui surgissent au coin de la rue. 10 lépreux, vous connaissez la lèpre un peu, cette maladie qui dévore la peau, les extrémités des membres, le nez, et qui nous transforme en un personnage hideux, affreux à regarder. 10 lépreux, on ne sait pas si ce sont des hommes, si ce sont des femmes, on ne connaît pas leur âge, on ne connaît pas leur famille, on ne connaît pas leur histoire, s'ils ont des enfants, on ne sait qu'une chose. Ils sont lépreux. Comme la lèpre peut niveler tout, elle enlève tout ce qui fait la beauté de la vie, des enfants, le sourire, il n'y a plus de sourire, il n'y a plus rien, les yeux, rien, il ne reste plus rien de ces 10 malheureux personnes, des lépreux. La seule chose qu'il leur reste, c'est qu'ils sont lépreux et qu'il y a au fond de leur cœur une fraternité. Vous avez vu, ils sont ensemble. La misère réunit parfois. Ils sont restés comme des frères ensemble parce qu'ils sont rejetés de tous, parce qu'ils sont exclus de la société, bannis de la société. Alors ils sont comme une île déserte, tous resserrés les uns après les autres, et là ils se tiennent pour avoir du courage, pour affronter une réalité que j'ose pas vous décrire, nous n'avons plus d'espoir. Nous ne nous en remettrons jamais. Nous continuerons de nous dégrader jusqu'au dernier et il ne restera rien de nous. Et tout à coup, là, ils voient Jésus qui rentre dans le village et ils vont à sa rencontre. Non. Je pense toujours que c'est Jésus qui vient à notre rencontre. Nous avons parfois le sentiment que c'est nous qui faisons le premier pas, parce que nous avons prié, parce que nous avons lu un psaume, parce que nous avons lu les récits de Jésus. En fait, c'est toujours lui qui fait le premier pas. C'est lui qui nous aime en premier, qui nous cherche en premier, qui a tout préparé en premier. Alors Jésus entre, mais au même moment, ils vont vers lui. Enfin, ils se tiennent à distance, parce qu'un lépreux doit respecter quelques mètres entre Jésus et eux. Ils n'ont pas le droit de s'approcher, parce qu'ils sont contagieux. C'est ce que l'on disait à l'époque. Pas d'approche, une distance. On n'apprécie pas les gens distants, qui nous salue du bout des doigts, qui nous regarde de haut et de loin. On n'apprécie pas trop ceux qui mettent de la distance entre nous et eux. Mais il n'y a pas de distance avec Dieu. Il n'y a pas de distance entre le riche et Dieu, entre le pauvre et Dieu, entre le malade et Dieu, entre le sportif des Jeux Olympiques et Dieu. Il n'y a pas de différence, pas de distance. Bon, la seule distance réelle qui existe entre Dieu et nous, c'est le péché. Le péché est un éloignement. Le péché, on m'a souvent dit, comment pouvez-vous le résumer ? Je ne prendrai qu'un seul mot, éloignement. On s'éloigne, c'est ça le péché. On s'éloigne de Dieu et puis après c'est toutes sortes de désordres. Mais cet éloignement, le Christ est venu pour le combler comme un pont. Le Christ est venu pour l'enlever afin qu'il n'y ait rien qui nous sépare de lui. L'apôtre saint Paul proclame avec fougue et joie, « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu comme il nous l'a montré en Jésus-Christ. » Nous sommes dans un monde qui va très mal, tout chancelle, tout se fissure, tout prend l'eau, tout devient liquide, on ne sait plus ce qu'il faut tenir ou rejeter. Mais une chose est certaine, c'est que nous ne perdrons pas l'amour de Dieu, l'amitié de Dieu, l'attention de Dieu. Ils voient Jésus, ils se tiennent à distance et ils élèvent la voix. Je crois qu'ils ne le font pas souvent. Vous savez, quand les gens ne sont pas entendus, ils ne parlent pas. Pour parler, il faut savoir qu'on est entendu. Et ces lépreux ne parlaient certainement pas parce que personne ne voulait les voir, personne ne voulait les entendre, personne ne voulait les rencontrer. Là, ils élèvent la voix. Ce n'était pas une prière. Je crois que c'était plutôt un cri de douleur, un gémissement que personne ne veut entendre. Aujourd'hui, on n'aime pas entendre les récits des veuves, les récits de maladies. On s'éloigne de ceux qui semblent apporter une ombre sur notre bonheur. On s'éloigne de ces gens qui parlent de leur détresse. Alors ils vont élever la voix. Et cette voix, je ne crois pas que c'est une vraie prière, mais le Seigneur l'a entendu comme une prière. Quand les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, pendant 400 ans, ils faisaient des briques. Ils gémissaient, ils pleuraient, ils se plaignaient, ils râlaient. Râlaient dans le sens que c'était comme un râle de la mort, c'est ce que dit le texte. Et Dieu dans le ciel les a entendus. Ils ne priaient pas, mais leur gémissement, Dieu l'entendait comme une prière. Et le gémissement de ceux qui passent par des souffrances, des deuils, des chagrins, des maladies, Dieu l'entend comme une prière. Il a entendu ces 10 lépreux qui ont crié. Tous ensemble, à l'unisson, comme une petite chorale. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Il ne prie pas le Fils de Dieu, il ne prie pas le Messie, il prie simplement un maître. Un maître à l'époque, c'était, on dirait aujourd'hui, un professeur, quelqu'un qui enseigne. Monsieur le professeur, ayez pitié de nous, voyez-vous. Nos prières ne sont pas parfaites, mais Dieu les entend. Il est branché sur notre cœur. Il a mis son stéthoscope sur notre cœur et il entend tout ce qui gémit en nous. Aie pitié de nous, ce qui donne de l'espérance à ces 10 lépreux, c'est qu'ils savent que Jésus est capable d'avoir de la pitié. C'est rare aujourd'hui la pitié. On n'a plus de pitié aujourd'hui. On a pitié pour son chat, pour son chien, mais pour le malheureux, pour le migrant, pour l'indigent, pour la veuve et l'orphelin, et pitié, ils savent, parce qu'ils ont entendu parler, la renommée de Jésus se répandait partout. Ils savent que Jésus est capable de s'arrêter sur un boiteux, capable de s'arrêter sur des aveugles, sur une femme qui pleure pour son enfant. Jésus s'arrête quand notre vie s'arrête. Ils l'ont appris. Alors ils se disent, il aura pitié de nous. Regardez nos mains, notre nez, tout se détruit, notre mentalité, notre morale se détruit. Aie pitié de nous. Ce qui nous donne de l'espérance, c'est que Dieu est capable de pitié. Je dirais le mot biblique, capable de miséricorde, de compassion, de souffrir, lui qui est si haut, de souffrir avec ceux qui se noient tout en bas, de souffrir avec ceux qui sont enfermés dans leurs quatre murs. Il est capable de souffrir pour nous, avec nous. Et cette compassion de Dieu, rien ne peut l'enlever. Ni notre péché, ni ce que les hommes peuvent faire sur la terre de difficile, rien n'empêchera Dieu d'avoir compassion des êtres humains qu'il a formés à son image. Jésus, aie pitié de nous. Jésus va répondre. Et son message qu'il leur a adressé ce jour-là, devant certainement ses 12 apôtres qui ne le lâchaient jamais, j'ai trouvé son message un peu sec, sans chaleur. J'ai trouvé son message un peu court. J'aurais pensé qu'il leur aurait dit « Ne craignez pas, croyez seulement. Ne pleurez pas, je suis avec vous. Ne promenez pas des regards inquiets, je suis là, je vous accompagne. » Il ne leur a pas dit ça. Il leur a simplement dit « Allez vous montrer au sacrificateur, c'est-à-dire au prêtre, c'est-à-dire au chef religieux, qui lui seul décidait si quelqu'un commençait la lèpre ou finissait la lèpre. Lui seul décidait si c'était le début de la maladie ou la fin de la maladie. Allez vous montrer au chef religieux. » C'est un peu sec quand même, hein. Mais pour ces hommes qui sont des hommes d'Israël, peut-être qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont dit, s'ils nous demandent d'aller voir le responsable du temple, c'est que peut-être que la maladie est en train de se terminer. Y avait-il peut-être une lueur d'espoir qui est née au fond de leur cœur quand Jésus leur a dit « Allez vous montrer, eux qui se cachent toujours, allez vous montrer, eux qui vivent dans l'ombre, repliés sous leurs bandeaux, sous leurs bandelettes, allez vous montrer aux prêtres de Jérusalem. » Ils y vont, sans discuter, sans répondre. Ils y vont avec confiance, parce qu'il y a une espérance. Quand il y a une petite espérance, on garde confiance. Quand on ne voit rien à l'horizon, on perd confiance. Et quand Jésus a dit ça, ils ont dû dire entre eux, il y a peut-être une espérance. Alors on va y aller. Mais Jérusalem, pour aller vers les sacrificateurs, il y a 3 heures de marche, ou 4 heures de marche, ou 5 heures. Ils sont partis. C'est un peu long, 5 heures de marche. En cours de route, ils ont peut-être dit, mais enfin, les copains, écoutez, on ne va quand même pas aller jusqu'à là-bas. Il nous a embrigadés, il nous mène en bateau. Et d'autres ont dû dire, mais non, s'il nous l'a dit, c'est qu'il faut le faire. Certains ont peut-être dit, moi je reviens chez moi, je ne vais quand même pas faire cette route-là, peut-être pour rien. Comme notre tête tourne vite, il faut que notre cœur soit à l'écoute de Dieu. Ils ont continué la marche. Et en marchant, tout à coup, j'imagine, l'un d'eux se retourne pour parler à son camarade de droite. Il lui a dit, mais hé, Ruben, qu'est-ce qui se passe? Ton nez n'est plus si farineux qu'avant. Et puis toi, Josué, tes oreilles sont meilleures qu'avant. Et puis toi, Siméon, qu'est-ce que tu as là? Mais tu es tout rayonnant, tout changé. Puis toi, et toi? Il arriva qu'ils furent guéris tous. Tous. Alors, je pourrais fermer la Bible en disant, magnifique, tout le monde est guéri, tout le monde repart chez lui, on va arroser ça, on va faire la fête. Enfin, sur la terre, vous le savez bien, vous qui avez peut-être connu des temps plus joyeux et maintenant plus difficiles, vous qui avez connu des temps où vous êtes monté dans la joie et le bonheur et maintenant ça descend, sur la terre, tout n'est pas plat. Il y a des montées, des descentes et on ne sait pas ce que demain sera. Donc, il ne faut pas s'arrêter simplement à cette joie de dire « nos mains sont redevenues normales ». Ils ont continué la marche guéris, sont allés jusqu'au bout du voyage. L'un d'eux, dit l'Évangile, l'un d'eux, se voyant guéri, est retourné vers Jésus. Hein? Mais, pasteur, me direz-vous, quand même, ils ont bien vu tout ce qu'ils étaient guéris. Bien, il y en a un qui a vu pas comme les autres. Il a vu plus que sa peau. Il a vu la main du Créateur qui se posait sur lui. Je prends un exemple. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de soleil. Hein. Mais imaginez un coucher de soleil sur la montagne. Ça dépend, les gens ne réagissent pas tous pareil. Il y en a qui disent « Oh, c'est l'heure d'aller se coucher. » D'autres disent « Ah, c'est quand même beau, quand même, ces couleurs. Hein. » D'autres disent « Oh, le ciel est rouge, il y aura du vent demain. » Voyez-vous, sur un coucher de soleil, tout le monde donne son avis. Et d'autres disent « Comme Dieu fait bien les choses. » Alors nous, lépreux, revenons à eux. Ils sont en route, ils guérissent tous. Ils voient qu'ils sont guéris, ils le voient sur eux, ils le voient sur le voisin, sur son visage, sur les mains. Un a vu d'une façon spéciale la création, la guérison de Dieu sur sa vie. Et vous savez ce qu'il a fait ? Et c'est peut-être ça le sommet de cette histoire. Il est revenu sur ses pas et il est allé remercier Jésus. Il est revenu sur ses pas. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, revenir sur ses pas, ça porte un nom. Il y a un mot pour ça. Il y a un mot, c'est pas du grec, c'est pas de l'hébreu, mais enfin c'est le mot que je voudrais vous donner aujourd'hui. Revenir sur ses pas, le mot c'est conversion. Une conversion à Jésus, c'est revenir sur ses pas, c'est revenir vers lui, c'est revenir à Dieu. Ben, il a dû laisser les 9 copains partir. « Oh, mes amis, je vais me séparer de vous, je suis malheureux. C'est ton affaire, nous, on profite. » Peut-être que ces 9 amis ont dit « Mais arrête, fais pas le bêta, profite de la vie. » Va pas retourner faire 4 heures de route alors que maintenant tu es guéri. Va rechercher ta femme, tes enfants, tes amis. Profite. Il a dit non, je vais aller remercier le Seigneur. Et il est revenu sur ses pas, 4 heures de route. Le retour à Jésus nous coûte. Il faut se séparer de certaines choses mauvaises. Il faut faire des bons choix. Il faut dire des oui, il faut dire des non. Il faut savoir renoncer et puis faire le bon choix pour la vie qui suit. Et en revenant vers Jésus, notre lépreux, avec sa peau de bébé, tout guéri, tout rose, notre lépreux s'est mis à glorifier Dieu. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il a dit. Quand on glorifie Dieu, on ne dit pas gloire, 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 gloire. On dit peut-être comme le psaume 116, « La mort m'avait environné ». J'étais en proie à la détresse et à la douleur et j'ai invoqué le Seigneur et le Seigneur a eu compassion de moi parce que notre Dieu est plein de compassion. Eh bien, ces paroles-là, c'est glorifier Dieu. Notre Dieu est plein de compassion. À haute voix, lui qui disait jamais rien, c'est un lépreux. Ça ne parle pas, les lépreux. Il y a des gens sur la terre qui ne parlent pas beaucoup. Ils finissent par désapprendre à parler, tellement ils sont seuls chez eux, seuls dans la rue, parfois seuls à l'église, seuls dans la famille. On ne leur donne pas l'occasion de parler. Mais lui, il a parlé à haute voix et les passants qui le croisaient ont dû dire oh, « Voilà un homme qui a été transformé. Voilà un homme qui n'est plus le même. » Et il arrive vers Jésus. Et là, il se couche aux pieds de Jésus, le visage contre terre. Il se met la face contre terre, il se prosterne. Mais dites donc, monsieur le Samaritain, c'est un Samaritain. Pour ceux qui connaissent la Bible, les Samaritains, je pourrais les comparer, ben ce sont des étrangers, voilà, voilà. Ce sont des migrants. Ah ben dites donc, on est mal parti. Hein. Ce sont des migrants qui se sont installés en Israël, et puis qui n'ont pas la même religion tout à fait que les Juifs, et puis qui embêtent un peu les autres, et puis on ne sait pas finalement ce qu'ils font ici, eh bien ce Samaritain, il n'a pas de relation avec les Juifs, et les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ce Samaritain est couché par terre, aux pieds de Jésus, et il dit à Jésus, « Seigneur, je te remercie, Seigneur, tu as changé ma vie, Seigneur, je te dois tout. » Aucune relation, aucune tradition ne nous sépare de Jésus. Quelle que soit notre religion, quelles que soient nos idées, notre culture, nos diplômes, notre éducation, notre histoire, nous sommes tous appelés, tous, quelle que soit notre religion, on est tous appelés à découvrir le sens de la vie, la clé, la vérité. La vérité, c'est une clé qui fait comprendre pourquoi nous sommes là, où nous allons, que faisons-nous ici. Samaritain, là, et Jésus va lui parler, il va le relever, lève-toi, mais il pose une question, mais les 9 autres, où sont-ils? Ils n'ont pas été guéris par hasard? Où sont-ils? Il les cherche, comme un père qui cherche ses enfants. Il les cherche comme le fils, le papa du fils prodigue cherchait son fils. Ces 9 autres ont disparu. Ils sont partis dans des chemins d'errance, les chemins du monde, des brebis égarées. Tragique, hein? Ils étaient à la porte de la vie, à la porte du bonheur, et ils ont fait demi-tour. Ils ne sont pas revenus dire « Seigneur, as-tu quelque chose d'autre pour nous? Que veux-tu que nous fassions? Que nous dis-tu pour notre vie ?» Parce que la santé, ce n'est pas tout. Il y a pas mal de jeunes en bonne santé qui se suicident. Et il y a des gens malades et handicapés qui luttent pour continuer la vie et pour surmonter beaucoup d'obstacles. Alors la santé, ce n'est pas tout dans la vie. Les vacances, ce n'est pas tout, le soleil, ce n'est pas tout, l'argent, ce n'est pas tout. L'essentiel, c'est le Seigneur. C'est lui, du début à la fin. N'y a-t-il que cet étranger qui soit revenu pour rendre gloire à Dieu, pour aller chercher la seule chose nécessaire? C'est quoi la seule chose nécessaire? C'est même pas d'avoir une santé parfaite. La seule chose nécessaire, c'est être avec Jésus. C'est connaître Jésus tel qu'il est. Parfois, on me pose la question, mais il n'y a pas de saints chez vous? Je leur dis, il n'y a que ça chez nous, que des saints. C'est comme ça. Vous ne priez pas les saints? Non, mais il y en a plein chez nous. Venez, il y en a plein, plein l'église. Les saints, c'est nous. Mais les gens me disent, mais ça veut dire quoi être saint? Ça veut dire être à Dieu, appartenir à Dieu, être avec Dieu. Et le plus beau de toute la vie humaine, c'est être avec Dieu. Et pour être avec Dieu, il faut un retour vers Dieu. On n'est pas avec Dieu naturellement, automatiquement, par logique. Il faut un retour. C'est la seule chose que nous faisons de réel et de fort sur la terre. Le plus grand voyage de l'être humain, ce n'est pas d'aller sur la Lune, enfin, il fallait quand même le faire, hein. Ce n'est pas de traverser l'Atlantique, il faut le faire toujours. Le plus grand voyage de l'être humain, ce n'est même pas de partir vers Dieu dans la mort. Le plus grand voyage, c'est de dire, je ne croyais pas en toi et maintenant je crois en toi. Ce n'est pas beaucoup, ça paraît petit. Mais c'est le plus grand pas. C'est le plus grand pas parce que la suite, ça va bien aller. Si vous faites ce petit pas, eh bien la suite ira toute seule. Vous ne serez jamais perdu, jamais abandonné, jamais renié. Vous serez toujours avec le Seigneur et à votre dernier jour, il sera là et vous serez avec lui dans ses bras. Il vous prendra, il vous conduira. Le premier pas que tout le monde peut faire, même l'enfant, la personne âgée, le malade, c'est de dire « Oui, Seigneur, je veux croire en toi. Ta foi t'a sauvé. » Ce qui veut dire « Tu es maintenant le bien le plus précieux. » Sauver, ça veut dire « Maintenant, tu appartiens à Dieu et rien ne te séparera de ses bras, ni la vie, ni la mort, ni les autres, rien. » Tu es son bien le plus précieux et, monsieur le Samaritain, tu vas te transformer de jour en jour. C'est ça, être avec Dieu. Être avec Dieu, ce n'est pas un ballot qu'on dépose là, un sac, et que Dieu viendra chercher quand nous allons mourir. Être avec Dieu, c'est monter une échelle sans cesse, c'est avancer sur un chemin de lumière. Être avec Dieu, c'est se transformer sans cesse. D'abord la peau, pour les lépreux. Ensuite, notre cœur, nos pensées, nos sentiments, le bien qu'on transforme en mieux, le mal qu'on transforme en bien, on transforme, Dieu nous transforme. Quand on appartient à Dieu, on est dans ses mains et Dieu nous façonne pour nous conduire dans sa maison. C'est beau ? C'est beau ou pas beau ? Ça, c'est l'Évangile. Eh bien, mes amis, il n'y a plus de lépreux maintenant, ou je ne crois pas, il n'en reste plus en France, il y en a encore en Afrique, c'est vrai, en Asie. Mais la lèpre la plus terrible, c'est quand même le mal. Et Dieu nous appelle à aller vers lui, à revenir pour déposer tout ce qui nous, tout ce mal banalisé. Le mal, il est banalisé. Après la guerre mondiale, il y a une philosophe allemande qui a parlé de juive allemande, Hannah Arendt, elle a parlé sur la banalité du mal. Le mal est banal. On fait du mal, mais c'est banal. On trompe, on pique, on meurt, on brûle, on fait du mal. C'est banal, c'est rien, c'est comme ça. Il ne faut pas les plaindre, il ne faut pas les traumatiser. Mes amis, nous sommes victimes aujourd'hui d'une invasion de lèpre que j'appelle la violence, que j'appelle le refus de l'humain. Parce qu'il y a un refus de Dieu, il y a un refus de l'humain. Si je ne crois pas dans mon père, ça veut dire que je n'ai pas de frère. Si je n'ai pas de père, je n'ai pas de frère. Et mes frères, je ne les connais pas et je n'en veux pas. Le Seigneur vient changer les choses. C'est le grand transformateur de la vie humaine. C'est magnifique. Sans lui, on n'aurait pas pu inventer ça. On a inventé des dieux, mais jamais une histoire comme ça. Il y a 2000 religions sur Terre, mais jamais comme celle-là. On a inventé des dieux qui font des choses étonnantes. Mais une histoire d'un Dieu qui se donne pour le lépreux, qui se donne pour moi, pour vous, ça c'est unique. Je vais vous inviter à baisser votre tête avec moi, à fermer quelques instants vos yeux à tout ce que vous voyez et vos oreilles. C'est pas facile de fermer ses oreilles, mais on va fermer un petit peu les portes pour prier Dieu ensemble. Rappelez-vous la parole des lépreux, Jésus, Maître, aie pitié de moi, aie pitié de nous. Rappelez-vous la parole si simple de Jésus, je vous guéris, allez vous montrer, on va vous dire que vous êtes guéris. Regardez comme tout est simple. Les hommes ont fait des chemins compliqués et Dieu a fait un chemin simple. On a tordu les chemins de Dieu. Mais le contact, la relation, l'écoute de Jésus est à la portée de tous. L'enfant, le vieillard qui meurt, la personne qui souffre, la personne qui est à la tête d'un État, d'un pays, d'une grande entreprise, peut entendre la voix de Dieu, la voix de Jésus. Baissons nos têtes ensemble et prions. Seigneur, nous nous mettons derrière le lépreux pour te dire, aie pitié de nous parce que tant de choses encore dévorent notre corps, notre santé, notre âme, nos pensées. Seigneur, nous nous mettons aux côtés du lépreux pour revenir aussi vers toi. Il n'y a qu'un seul chemin pour nous, c'est le chemin du retour à Dieu. Sans cela, nous sommes rempli d'idées, de pensées, rempli de paroles, mais aucune vie en nous, et nous nous épuisons. Alors, nous voulons revenir vraiment à toi, non pas revenir à ce que nous étions, mais revenir à toi, ça veut dire à ce que tu prépares pour nous. Seigneur, guéris nos corps et nos âmes. Nous sommes touchés par tellement de lèpre aujourd'hui. Transforme notre vie de lumière en lumière, d'éclat en éclat. Guéris notre cœur et pardonne nos offenses. parce que tu es venu sur la terre pour nous réconcilier avec notre vocation humaine, avec notre Père céleste, avec les autres. Merci. Je veux te dire comme le lépreux qui était revenu, le seul, tout seul, dans sa solitude du retour, merci. Tu es plein de compassion. Merci Seigneur. Amen.